émission qui parle à tout le monde et au monde.
17h-20h avec John.
On dit Jemeya chantait déjà Yinga il y a bien des années dans son premier album. Album intitulé Jemeya. Et vous avez compris que la chanson a été choisie à dessein puisque notre invité aujourd'hui a pendant longtemps porté ce surnom. On va souhaiter la bienvenue à notre invité de cette soirée, Jeanne Benti, qui est avec nous. Pour ceux qui ne sont pas familiers des milieux culturels, ce nom peut sembler mystérieux, Jeanne Benti. Et pourtant, sans le savoir, beaucoup la connaissent déjà. En 2012, elle apparaît sur nos écrans dans un rôle marquant, celui de Yinga, à une époque où Ngo Ambenge avait, après avoir trouvé son blanc, faisait rêver plus d'une. Elle l'incarne dans une telle justesse que pour beaucoup, ce personnage est encore collé à son nom. Comédienne de théâtre, actrice de cinéma, animée au départ par le rêve de la danse, elle a finalement été happée par le 7e art. Et son parcours, riche et exigeant, prouve qu'elle y était destinée. Ceux qui suivent son évolution savent que tout commence dès les années 2000 sur les planches. Puis viennent les rôles marquants, celui que lui confie Thierry Ntamack dans cette chanson, dont il est l'interprète de cette chanson. Thierry Ntamack, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau, qui déclarait ici même, sur cette antenne, que le talent de Jeanne Benti n'est pas reconnu à sa juste valeur.
Pas du tout.
On la retrouve aussi dans la sitcom Ntsini et Baba de Cyril Masson, avant de briller dans Engagement mortel et Man for the Weekend, ou encore auprès de Valérie Ndongo, aussi bien sur scène que dans Congo Salange. Et puis arrive l'éclat, celui de Soye dans la série Ewuzu de Françoise Elon, un rôle qui lui permet une fois encore de crever l'écran. Aujourd'hui, forte de cette expérience, elle transmet à son tour, comme lors de cet atelier pratique, sur la sincérité dans le jeu. Une reconnaissance juste, après tant d'années à forger son art, à attendre son heure de gloire, à donner son relâche sur scène comme à l'écran. Ce soir, c'est un immense plaisir, c'est un grand honneur d'accueillir dans la vibe pour revisiter ensemble un parcours professionnel qui force le respect et l'admiration. Jeanne Benti, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, merci. Ouh là là, quel bio. Je suis émue et surtout avec la chanson Enfant sonore de Thierry, que j'aime beaucoup, que j'ai partagé quand j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je savais qu'il chantait, mais j'étais très émerveillée de voir que c'est un bon soprano. C'est quelqu'un qui a une très belle voix, une présence vocale. Il n'a pas seulement une présence physique, mais il a aussi une présence vocale. Donc du coup, j'ai même failli couler les larmes là, parce que c'est tellement émouvant de lancer une biographie comme ça et de mettre en fond son nom, quelqu'un qui a beaucoup porté pour moi dans ma carrière en tant qu'artiste.
Alors Jeanne, quelle est ta réaction au propos de Thierry, mais pas beaucoup, de plein de gens que je connais dans le milieu du théâtre qui me disent, mais Jeanne, c'est un énorme talent, mais qui n'a... Alors ça, c'était un peu avant Ewuzu. Mais tout le monde disait, mais tu es l'énigme des planches, parce que tout le monde se demande, mais comment est-ce que ce talent n'est pas connu, au moins sur la scène africaine?
Après, je dirais que c'est une question de chance et d'étoile, hein, parce qu'on peut avoir du talent, mais ne pas se trouver dans de bons endroits au bon moment. Je ne vais pas dire que j'ai la poisse, j'ai pas dit ça. Mais je veux simplement dire que c'est une question de chance et puis de destin. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore décidé de me mettre au niveau où il faut. Mais toujours, elle dit que je suis toujours reconnaissante des paroles qu'il dit par rapport à moi, parce que en vérité, c'est quelqu'un que j'ai connu qui n'est pas hypocrite, qui dit ce qu'il pense. Donc, Thierry, s'il dit quelque chose, c'est que ça vient vraiment de ses tripes. Mmh. C'est pas inventé comme certains réalisateurs qui disent des mots vis-à-vis des acteurs, ouais, juste pour faire plaisir. Mais lui, quand il le dit, il pense. Mmh.
Et Jeanne Benti, vous l'avez découvert avec le rôle du blond de Yenga 1. Mm-hmm. Beaucoup de gens posaient la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tellement de spéculations.
Oui.
Et je pense qu'il y a rarement dans le cinéma eu autant, surtout à l'époque,
ça a bavardé,
autant de spéculations, ouais, sur le pourquoi du comment. C'est ce qui s'est passé pour
qu'est-ce qui s'est passé
Jeanne Benti ne soit pas là. On ne va pas lui poser la question. On avait déjà posé la question à Thierry, ouais, Tama, qui nous a d'ailleurs répondu. Hein. Mm-hmm.
Quel est le moment le plus bizarre ou gênant que tu aies vécu sur un tournage?
Le refus du visa de ma comédienne Yenga.
Oui, de Jeanne.
Oui, Jeanne, parce qu'on a tourné dans le blanc de Yenga 2. Et j'ai dû recommencer le tournage à zéro avec Aïcha Kamouas. Parce qu'elle, on lui a refusé le visa pour aller en France alors qu'on était déjà parti. Donc voilà, ça a été gênant parce que ce n'était pas que ponctuel. Ça veut dire qu'il fallait recommencer tout à zéro. Et il fallait affronter maintenant les rumeurs, les sabotages, les gens qui pensent qu'elle a refusé de coucher avec toi ou parce que tout ce que tu as. Mais et qu'en même temps, il fallait protéger aussi cette comédienne là qui s'est donnée. Elle est venue en bois manga, elle a tourné pendant tout le film. Et puis c'est des images qui ne seront jamais vus, tu vois un peu, par le tradon, et c'est quelqu'un d'autre qui va devoir jouer ce rôle-là, alors qu'elle est attendue par le grand public, vous voyez. Donc sa souffrance était ma souffrance, et en même temps il fallait affronter tout ce qu'on racontait sur. Donc c'était très très difficile parce que ça impactait sur tout le film, et sur un film où tout un public attendait tous les jours la suite du Blanc des Yenga 1. Ça a été très très difficile.
Et comment est-ce qu'elle l'a vécu?
Ça a été très difficile. C'est-à-dire que elle est forte, mais je veux dire que si tu veux, parce que elle savait très bien que des gens racontent des faussetés, tu vois. Mais en même temps, je veux dire que elle a fait un succès plein avec le Blanc de Yenga 1, et le refus du visa, c'était un choc. Et moi, je n'étais même pas au Cameroun. Moi, j'étais déjà sur Paris, où on l'attendait pour la suite du tournage qu'on avait commencé. Et on avait de très belles images. On avait de très très belles images. Je veux dire que on a tourné en bois manga, on a tourné sous le pont de la Kinky, on a fait des images, on a tourné chez les Pygmées, on a tourné des scènes que vous n'imaginez même pas. On a dû recommencer à zéro. C'était très très difficile. Et donc du coup, psychologiquement, tous les jours, il fallait qu'on lui rappelle que pourquoi elle n'est pas dans le 2 et que voilà, juste à cause d'un visa. Donc, mais ça, ça appartient aujourd'hui au passé. Je suis content parce qu'elle a pu avoir d'autres opportunités. Mais c'était très difficile de se relever de ça.
Alors Jeanne, tu es avec nous aujourd'hui.
Oui.
Raconte-nous ce moment. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là?
Alors, ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'on a l'impression d'être de l'inachevé, en fait.
Ouais.
Parce que on a commencé à tourner effectivement le Blanc de Yenga 2. On a vraiment fait une grosse partie et il fallait continuer la partie européenne entre demande de visa, la paperasse et autres, et puis refus de visa. Tu réalises que il y a d'abord deux choses que tu réalises. La première des choses, c'est ma carrière va prendre un coup, un sacré coup. Et puis la deuxième des choses, c'est mais comment l'équipe va faire? Parce que recommencer un tournage qui était déjà, je crois, peut-être 60 ou 40%, le budget que cela prend, et faire venir encore une autre équipe, refaire tout à zéro, c'est vraiment énorme. Donc moi, je me suis mise à la place en même temps du réalisateur et en même temps à ma place parce que je savais que ça allait faire boum.
Voilà.
Et je craignais vraiment parce que je me disais le Blanc de Yenga 2 n'aura pas le même succès que le Blanc de Yenga 1, oui. Mm-hmm. Parce que on attend un visage, on ne le voit pas. Et du coup, ça va vraiment casser. Donc j'étais vraiment inquiète et vraiment triste pour moi-même parce que je savais qu'effectivement, avec le Blanc de Yenga 2, ça aurait eu, même si, parce que parfois on peut miser en se disant que le Blanc de Yenga 2, même si j'étais là, ça devait avoir une autre portée. C'est clair que le public accompagne le personnage dans l'histoire. Le public veut bien voir le personnage arriver en Europe. C'est vrai que ça aurait eu une autre portée, mais Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je n'y peux rien, ça a été la volonté de Dieu. Je n'ai pas pu faire le Blanc des Yenga 2. En remettant entre les
mains. Ça a pris combien de temps pour te relever de ça?
Alors, honnêtement, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour être relevé de ça. Parce que quand on apprend à faire ce métier, on nous prépare mentalement à vivre plusieurs étapes de la vie. Et forcément, c'est comme on peut te dire demain, surtout au cinéma, quand tu tues ton personnage il meurt. Le réalisateur est libre de faire tout ce qu'il veut par rapport à un personnage. Donc, du coup, le... c'était un peu, comment je vais dire, c'était hard au début, mais après, étant donné que je fais aussi des scènes de théâtre, donc du coup, j'étais tout le temps sur des projets, ça me permettait aussi un peu d'évacuer. Mais la seule chose qui était difficile pour moi, c'était le public. Parce que le Blanc des Yenga a tellement eu un grand succès que c'était quasi impossible de passer quelque part si on ne te posait pas la question de savoir pourquoi on ne te voit pas dans le 2, pourquoi tu ne fais pas le 2, pourquoi on ne te voit pas dans le 2. Donc c'était, il fallait répondre à tous les carrefours,
à la même question.
Dans les taxis, dans le, à un moment, c'est peut-être le poids ou bien la pression du public qui te fait... réaliser que il y a quelque chose qui se passe en fait.
Et quand on vit ce type d'événement, est-ce qu'on regarde encore le film? Est-ce qu'on va regarder le film?
Honnêtement, le Blanc des Yenga, si je l'ai regardé beaucoup de fois, c'est 3 fois. Depuis que le Blanc des Yenga est sorti, si je l'ai regardé plusieurs fois, c'est 3 fois. Déjà, j'avais du mal à la salle. À la salle, je regardais, je ne réalisais pas. Déjà, je ne réalisais pas de voir qu'il y avait autant de monde pour regarder le Blanc des Yenga. Et là, je me vois à l'écran, je fais waouh. Et après, je vois la scène.
Donc, j'ai fait les scènes.
La scène. Je vois la scène.
La scène, là, la fameuse.
Je dis, hé hey, Dieu, Thierry Mathieu, Thierry Mathieu. Parce qu'à la base, ce n'était pas prévu. Moi, je jouais parce que j'avais besoin de... Comme je le dis par rapport à l'atelier de la sincérité de jeu, il faut être vrai dans tout ce qu'on fait. Donc, du coup, moi, je le jouais parce que je voulais vraiment donner la vraie émotion et l'émotion juste. Du coup, moi, je l'ai fait comme ça pendant le...
Ah, c'est pas prévu dans le script.
Non, c'est pas prévu. Wow. C'est pas prévu. Donc, du coup, moi, je l'ai improvisé comme ça, là.
Et il a gardé...
Ça à l'avant-première, j'ai fait « Hey !»
La sincérité était sincère.
Je vais m'en sortir. Se regarder, c'était même la scène la plus difficile pour moi à regarder. C'était très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à regarder.
C'est vraiment contraire à la personne que tu es et aux valeurs que tu
portes. Oui, c'est vraiment contraire. C'est vraiment très, très contraire parce que c'est très difficile quand même que moi, j'expose... Bon, c'est vrai qu'on dit souvent que j'ai les loulous, que je mets le temps à la valeur, mais je n'en fais pas trop.
Très décente.
Oui. Bon, après.
Mais ce succès-là, alors Thierry nous dit qu'il y avait une certaine énergie parce que lui nous a raconté que c'était une scène de pauvre, parce qu'il n'y avait rien. Chacun qui mettait la main.
On a tourné dans ce film, vraiment, il n'y avait même pas un radis sur ce plateau. Tout le monde a mis de son âme, tout le monde a mis.
Parfois même son argent, parce qu'il nous disait que les gens essayaient de se cotiser pour.
Oui, parfois on était sur le plateau, on n'avait pas de quoi manger, donc il fallait se cotiser. Et c'est vraiment les productions, jusqu'à aujourd'hui, il y a des productions comme ça qui existent, où les réalisateurs ont un projet, mais ils n'ont pas de l'argent. Ils décident de se mettre ensemble pour essayer de travailler. Donc, le Blanc des Yenga, on a tourné vraiment, c'était l'âme, comme on dit. C'était le fight spirit, comme on dit.
Comment est-ce que toi, tu te rends compte que ce projet a marché?
Alors, honnêtement, on ne peut pas te dire quand on fait un film, personne ne peut te dire que ce film va marcher, en fait. Tous les grands réalisateurs, peu importe lesquels, tu peux mettre tout le budget, tu peux mettre toute l'âme qui va avec, mais au final c'est le public qui décide. Le Blanc des Yenga, personne ne s'attendait à ça, vraiment on tournait ça avec toute notre âme. La seule chose qu'on savait, c'est que ça pouvait intéresser parce que c'était un sujet d'actualité. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi j'ai accepté de tourner dans le film, parce que quand il m'a proposé le scénario, j'ai vu que ça c'est un sujet qui est d'actualité. Et honnêtement, j'avais tellement d'amis autour de moi qui faisaient... C'était vraiment les débuts des années où les réseaux sociaux venaient d'arriver, où on cherchait le blanc à tout prix.
C'est ça, les cybercafés.
Voilà, les cybercafés. C'était vraiment à la mode. Et j'avais tellement d'amis qui disaient, si elles n'ont pas le blanc, elles ne peuvent pas se marier. Elles, elles étaient prêtes à tout, vraiment. Et quand j'ai lu, j'ai dit, ah, ça me parle. Ça me parle parce qu'il y en a tellement autour de moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais le faire. Mais personne ne s'attendait. On s'attendait que ça pouvait marcher. Mais pas à un succès.
C'est flagrant.
Oh là là, c'était, parce que c'était
quelque chose. C'était quelque chose.
C'était effrayant. Tu sais, nous qui sortons des planches, là, tu arrives, tu es au cinéma, après, boum, tu commences à marcher, tu ne peux plus marcher tranquille. Bon, tu ne peux plus vivre ta vie tranquille.
Voilà,
tu ne peux
plus, tu ne peux plus.
Donc, personne ne s'attendait à ça, en fait.
Mais moi, j'ai envie de savoir. C'est un rôle très fort que tu joues et tu décris avec une véritable sincérité, ce qui se passe. Parce que juste après, même on a la chanson Jumbos, les filles qui partaient se débrouiller, c'était courant. Comment est-ce que tu arrives finalement à sortir? C'est-à-dire, puisque les gens dans les rues, ils t'attrapent avec ça. Tu es, jusqu'aujourd'hui, tu demeures Yenga. Mais comment tu parviens donc à faire la différence, à leur dire que bon, ça, c'est le personnage, mais voilà qui je suis ici. Jusqu'à quel point ça t'a collé à la peau?
Malheureusement, c'est le film qui va me coller à la peau, même si je vais jouer à Hollywood et que je remporte tous les Oscars de la Terre pour les Camerounais, ça sera
Yenga.
Et Yenga, je vais beau expliquer, je vais beau me détacher, je vais beau, parce que chaque fois que quelqu'un me croise dans la rue, ton blanc est où?
Voilà.
Ton blanc même vit encore. Est-ce que tu as encore les nouvelles de ton blanc? Donc, tu vois, c'est difficile d'enlever dans la tête des Camerounais que c'était un personnage que je jouais.
Oui, c'est pas
très,
toi.
C'est vraiment très difficile. Mais donc, du coup, je fais avec.
Est-ce que ce personnage-là, est-ce que tu as une anecdote justement par rapport à ce personnage dans la vie courante où quelqu'un t'a même, ça a créé une situation un peu malaisante,
le
où quelqu'un
te juge?
Oui, voilà. Les moments les plus embarrassants généralement, c'est Yenga, tes seins sont où? Oui,
bravo,
c'est ça, c'est tout.
Et qui est?
Et Yenga, tes seins sont où? Je dis, qui est mon frère? C'est tous mes seins, non? Mais tes seins là, c'est parti, ça a disparu. Ou bien tu nous as trompé dans le film là. Le genre qu'on voyait ça, c'était gros. Maintenant, je te vois, c'est juste des petites remarques comme ça. Enfin, pas des petites remarques, mais des remarques comme ça.
Oui.
Alors, que j'aime, mais après.
Les gens te découvrent en 2012, justement, avec le blanc des Yenga. Mais 10 ans avant, tu faisais tes premiers pas sur les planches, avec plein de représentations. Je sais quand même qu'en 2004, tu collabores avec Dovi Kendo. Je crois que c'était La Fille du Baoba, si je me trompe pas.
La Fille du Baoba, oui.
Ouais. Là, tu es vraiment à tes premiers pas à la planche. Qu'est-ce qui te fait, toi, qui es entré à la maison de la danse de base? Qu'est-ce qui te fait regarder les planches et te dire que peut-être que je peux y arriver?
En fait, ce qui se passe, c'est que quand moi je viens dans l'art, c'est pour être danseuse.
Ouais.
Ce n'est pas pour être comédienne, ce n'est pas pour être humoriste, je ne sais pas, faire cinéma, c'est la danse.
Ouais.
Bon, maintenant, à la Maison des Jeunes et des Cultures, à l'époque, il y avait dans la section danse, le moniteur de danse n'était pratiquement jamais là.
D'accord.
Et c'est comme ça que les moniteurs de théâtre viennent me convaincre en me disant, on fait de la danse aussi au théâtre. Donc, tu peux venir faire le théâtre. Tu peux venir faire le théâtre et tu danses.
D'accord.
C'est comme ça que je me retrouve donc finalement comédienne. Je ne danse même plus, mais je deviens comédienne.
On t'a bien eu sur ce coup-là.
Oui, on m'a bien eu. C'est comme ça en fait que j'intègre, que je commence à faire du théâtre, à m'intéresser au théâtre. Dovi était l'une de mes formatrices.
Ouais. OK. Et quand 2 ans plus tard, matin, Barra te propose le rôle dans Mais je l'ai tassé, là tu n'es plus juste la fille qui danse, qui essayait le théâtre. Ça, à partir de là, ça commence à devenir quelque chose que tu envisages.
Alors, avec Martin, il y a là un travail qui est assez spécial.
Ouais.
Parce que Martin Ambara fait partie des pionniers du travail de la biomécanique et de la biorythmique. La biomécanique, ça demande beaucoup de travail avec le corps. Du coup, on travaillait avec des danseurs et des chorégraphes. Beaucoup, parce qu'à 90%, ces spectacles sont physiques. Extrêmement physiques.
Ouais,
donc, t'as 2 heures, 3 heures de spectacle où tu sautes, tu cries, tu montes, tu... Bon, pendant 3 heures, il faut faire. Donc, du coup, la danse fait en sorte que j'ai déjà un plus sur les comédiens de théâtre qui, eux, étaient justement axés sur l'émotion et la voix.
Ouais.
Donc, du coup, on travaillait avec des chorégraphes qui, parfois, ils oubliaient qu'on était des comédiens. Eux, ils pensaient que nous, on était des danseurs.
Ouais.
Donc, du coup, ils nous faisaient travailler le corps, travailler le rythme. Parce que, aussi, avec Martin, on faisait la biorythmique.
Ouais.
où on travaillait aussi le corps, le mouvement, le rythme du corps avec la musique, le rythme du corps avec le temps, le rythme du corps. Donc on travaillait, il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on faisait. Et du coup, quand il me propose Roméo et Juliette, à ça, on avait déjà fait un premier atelier sur Trois prétendants, un marais de Guillaume Oyuno. C'est comme ça qu'on a commencé à faire la biomécanique. Et la continuité de ça, c'était pour aller faire le spectacle de Roméo et Juliette assez à Ouagadougou pendant les récréations théâtrales.
Et là, tu commences à entrer progressivement. Il y a le jeu de la vengeance avec Essono Timi.
Le jeu de la vengeance.
Là, c'est vraiment. Là, tu as oublié la danse, quoi.
Non, là, j'ai déjà oublié la danse. Et je ne connais même plus la danse, là-bas. J'ai pris goût.
Mais qu'est-ce qui te fait prendre goût, toi qui es juste arrivée...
Comme ça. Voilà, que je viens d'abord voir en attendant.
Parce que contrairement aux autres qui vont te dire, ouais, moi, j'ai toujours aimé. Toi, absolument pas. Est-ce que tu avais même déjà, avant la danse, avant d'entrer, un contact avec le théâtre?
Non. Ah non, si. Quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, au collège...
Ouais.
J'avais repris un sketch de Def Kemoktay.
Oui,
et je ne savais même pas à l'époque que c'était lui. Je reprenais un sketch avec un jeune gars au collège qui l'aimait tellement. Lui, il faisait Def Kemoktay, moi, je faisais la petite servante et tout. Donc, c'est des années plus tard quand je vois Def Kemoktay, je fais... Mais j'ai fait le sketch de ce monsieur. Mais c'était comme ça. Ce n'était pas juste comme ça, en passant. Alors... Pour expliquer tout à l'heure comment je fais pour commencer à m'intéresser véritablement au théâtre, c'est que ça ne s'explique pas en fait. Une fois que tu es sur les planches, tu n'expliques pas pourquoi tu aimes être sur les planches.
Ouais.
Tu n'expliques pas pourquoi tu aimes transmettre. Tu n'expliques pas pourquoi tu aimes jouer, tu prends du plaisir.
Ouais.
C'est un peu comme une femme enceinte qui ne peut pas t'expliquer la douleur de ses contractions, mais chaque année tombe enceinte.
C'est vrai, c'est faux.
C'est très contradictoire, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai, parce que tous les jours, tu vas en répétition, tu répètes, ça te saoule, ça te fatigue, ça tu répètes nerve. Les mêmes mots.
Tu es aussi face à tes propres erreurs.
À tes propres erreurs, tu as tes problèmes à la maison, tu as tes problèmes de famille, tu as tes problèmes, tu n'as même pas parfois à l'époque, parce que... À l'époque, on partait aux répétitions. Nous, par exemple, une comme moi, je marchais de la maison des jeunes et de la culture qui était à Aqua, au niveau de l'ancien... Là où il y a le nouveau PMU, c'est aujourd'hui. Vraiment là où c'était situé la maison des jeunes et de la culture. Donc, je marchais de là à pied jusqu'à l'hôpital général. Donc, tu arrives, tu es en répétition, tu répètes, tu sais que tu dis, bon, quand je vais rentrer là, je vais rentrer avec qui?
Mon Dieu.
Mais tu es là, tu travailles, tu ne comprends pas ce qui te prend, ce qui t'emporte. Mais tu es toujours là, tu es concentré, toujours. Et le jour de la représentation, toi-même, tu sens que c'est ce moment de sacrifice-là que tu prends plaisir à donner, à partager avec le public.
Et en 2011, il y a Retrouvailles Bar de chez nous, avec Vincent Doumbé. Tu rentres dans le cinéma, un peu. C'est comment la transition?
Alors, je continue toujours le théâtre.
Ouais.
Mais dans Retrouvailles Bar de chez nous, on avait la chance d'avoir le directeur de casting qui était Échou.
Ouais.
Lui-même aussi homme de théâtre. Donc, quand il me caste, il me dit que tu peux me quoi, viens faire le cinéma. Je dis que moi, je peux faire le cinéma. On me dit oui, c'est comme ça en fait que je fais mes premiers pas au cinéma. Et je comprends une chose quand je commence avec le cinéma, cette période-là. Je pense que ça a été une année aussi bénéfique pour moi. Parce que il faut pas qu'on se monte. C'est pas parce qu'on est comédien de théâtre que forcément on sera un très bon acteur de cinéma.
Tu as anticipé sur ma question.
C'est ça.
De manière fondamentale, c'est quoi la différence? Il y a un jeune qui vient te voir et te dit, Jeanne, c'est quoi la différence fondamentale entre être comédien blanche et acteur et comédien cinéma?
Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a une différence en fait.
D'accord.
Il n'y a pas une véritable différence parce que dans la mesure où on incarne des personnages et où on transmet des émotions. La différence avec, par exemple, le cinéma, c'est que c'est des caméras qui captent. Et malheureusement, même pas que malheureusement, le danger avec la caméra, c'est que ça filme les moindres petits détails que ton visage peut donner. Donc, si tu ne fais pas gaffe, tu vas donner quelque chose qu'il ne faut pas donner. C'est pour ça que les gens ont souvent l'impression que les gens surjouent quand ils sont face à la caméra. Mais maintenant, le comédien de théâtre,
il a le temps de répéter, il a le temps de jouer, d'exprimer, parce qu'il y a un public qui le regarde. Le public est à 10 000, 15 000 kilomètres. Il faut que tu sois vraiment très expressif pour qu'on voit...
Pour qu'on capte le message et les émotions.
Pour qu'on capte l'émotion. Oh, la caméra, c'est difficile. C'est pour ça que je dis, comédien de théâtre, c'est pas parce qu'on est bon comédien de théâtre que forcément on sera bon acteur de cinéma. C'est pour ça que vous avez remarqué que beaucoup d'acteurs de théâtre, quand ils arrivent au cinéma, ils sont obligés de faire d'abord une adaptation pour jouer face à la caméra. Ce n'est pas que les émotions seront difficiles pour lui de donner, mais c'est qu'il faudra qu'il trouve le juste milieu pour ne pas être en surdosage.
Pour ne pas surjouer, c'est ça.
D'accord.
Pour ne pas surdoser le jeu.
Ouais, ouais. Moi, une question me taraude d'esprit depuis qu'on a commencé l'interview. D'où vient l'humour entre la danseuse, tout d'abord, ensuite celle qui faisait le théâtre, ensuite on se retrouve dans le cinéma. D'où sort l'humour?
Alors, l'humour vient du fait que je suis arrivée au théâtre, j'ai connu Valérie. Voilà. Okay. Donc, nous, on était à Douala, on était trois acteurs, on était trois comédiennes. À Yaoundé, ils étaient trois comédiens. Il y avait la feu France Ngombo qui, elle, était à peu près Ndovikendo de Yaoundé.
Oui.
Donc, du coup, elle avait trois acteurs et elle avait trois comédiens et Dovia avait trois comédiennes. On avait un atelier qu'on devait faire à Yaoundé, Afrique, Réa et tout. C'est comme ça que je rencontre Valérie. Et Valérie et nous, on devient amis, on devient très amis, on devient complices et tout. Donc, du coup, quand il y a eu... même pas que quand il y a eu, Valérie vient un jour chez moi, Valérie me dit, mais je dis, toi tu es là, tu te déranges, mais tu dis que tu veux faire le tas, un cachet, vous êtes sans. L'humour, un cachet, tu es seul. Et en plus, il n'y a pas de femme.
Ouais.
Viens faire, je lui dis, moi, je peux faire rire les gens. Il dit, il me dit, mais tous les rôles qu'on te donne, c'est toujours que tu dois faire rire les gens, faire rire les gens. Pourquoi tu ne peux pas le faire seul? Comme ça qu'il réussit à me convaincre que je peux faire de l'humour. Les premières années, ça n'a pas été facile. Toujours l'école. C'est toujours l'école. La première année, deuxième année, ça n'a pas été facile. Parce qu'en humour, on est auteur pratiquement de ses propres sketchs qu'on doit écrire. Et tu dois écrire ce qui te touche, ce qui te parle. Tu ne peux pas aller parler quelque chose d'autre. Non, il faut que tu écrives. Et moi, la plume, je n'ai pas une si forte plume que ça en tant que telle. Mais c'était compliqué.
C'est parce que Flintu nous a dit. Flintu nous a dit, Arles Antonio, qu'il est retenu à ses premières auditions avec Valérie Dongo grâce à un sketch que tu as quasiment co-écrit parce qu'il est arrivé là.
Oui. En fait, moi, la différence, moi je dis, c'est très compliqué parce que tous les jeunes humoristes, là, tous les jours, me disent toujours la mère, tu es âgée. Parce que en direction de jeu, en direction de sketch, en direction de trucs, je suis très douée là-dessus. Bon, je ne me vante pas, mais pour la plupart des humoristes qui travaillent à Africa Stand-Up, je corrige ou bien je demande la réécriture totale de tout pour pouvoir avoir quelque chose de potable et différent, quelque chose de créatif. Donc, avec Flintu, quand il est venu, il avait un sketch écrit, j'ai dit non, ça marche pas, ça me plaît pas. Il me dit ouais, là, mais je dis non, ça me plaît pas, tu vas réécrire ça. Tu vas recommencer à zéro. Donc, si c'est l'autre, j'ai des idées, mais une fois que c'est moi, je bloque.
le cordonnier qui ne sait pas se chausser.
Voilà, une fois que c'est moi, je bloque. Moi, je panique même parce que parfois, quand j'ai des sketchs, je les appelle, je dis hey, venez écouter. Le sketch, je peux dire quoi est-ce là? Qu'est-ce que je peux. La mère, tu ne peux pas dire que c'est toi qui nous guides tous les jours. Je dis mais attendez, mais c'est normal, je ne m'écoute pas.
Oui.
Vous, je vous écoute, le regard de l'autre est parfois plus important que le regard qu'on peut porter à soi.
Exactement.
À partir de demain, tu partiras une série d'ateliers.
Le 25 septembre, c'est demain ?
Oui,
c'est demain.
Oui.
Ah oui ? Tu as oublié ? Tu as trois jours du 25, 26, 27.
À partir du 25, qui est demain,
oui.
Une série d'ateliers sur la...
Dans ma tête, c'est le 23 aujourd'hui.
Non, nous sommes le 24.
On est le 24.
Bah heureusement que tu es venu. Heureusement que tu es venu à cette émission.
Oui, heureusement.
Et le thème, c'est la sincérité dans le jeu. C'est vraiment quelque chose qui m'a, moi, interpellé personnellement. Alors, quand tu entends le mot sincérité dans le jeu, à quoi ça te fait immédiatement penser? Alors, dans ta vie même d'ailleurs. Dans ta vie d'abord.
D'ailleurs, dans ma vie, la sincérité, c'est quand une personne est vraie dans tout ce qu'elle fait. Une fois que tu es vrai, il est quasi impossible que tu passes à côté de certaines choses. Donc, du coup, j'ai tenu à ce que dans cet atelier, si qu'on parle de sincérité, parce que je me suis rendu compte que il y a des acteurs, ils ne sont pas sincères dans leur jeu. Ils ne sont pas sincères dans leur jeu. Du coup, ça fait en sorte que je me dis, waouh, il y a un gros travail à faire là-dessus.
Mais c'est quoi être sincère dans le jeu?
Alors, c'est quelque chose que... être sincère dans le jeu, c'est vivre le personnage, c'est être le personnage, ce n'est pas imaginer le personnage qu'on va jouer, c'est être, comment je peux dire, c'est un peu comme si, je veux dire, elle va te jouer. Mm-hmm. Elle ne doit pas t'imaginer, elle doit être toi.
Elle doit entrer dans sa peau.
Voilà, elle doit être toi et elle doit te parler et ça te touche dans l'âme. Pas qu'elle te parle... Elle a parlé, oui, mais...
C'est pas ça, on ne ressent pas.
On n'écoute pas, mais c'est le gros problème qu'il y a, pour moi, en fait. Mm-hmm. Ce que je remarque dans le cinéma ici, c'est le gros problème que nous avons.
Est-ce que ce n'est pas l'un des plus difficiles aspects dans notre cinéma, dans notre petit écran aujourd'hui?
Oui, c'est l'un des aspects. Parce que je pense que quand on est sincère et vrai dans son jeu... On a la vérité du jeu et on a la justesse du jeu. On ne surjoue pas.
Ok. Mais quels sont les pièges qui peuvent empêcher un comédien, un acteur ou alors quelqu'un qui doit interpréter d'être sincère?
Parce qu'il ne comprend pas son personnage. Un. Mm-hmm. Deux. Au lieu de le construire, il imagine. Quand je dis le construire, il imaginer, c'est dans le sens où quand on te dit de jouer un fou, au lieu d'aller regarder un fou, au lieu d'aller vivre l'état d'émotion d'un fou, tu vas rester dans ta chambre, tu vas imaginer. Je vois souvent le fou, il fait ce pas comme ça. Et si moi, il fait comme ça, oh, tu vas dans la rue, tu vas constater que les fous, ils ne font pas ça. Les fous, c'est très difficile que tu vois des fous
s'agiter.
Mm-hmm. Non. Il y a des fous, quand tu regardes, tu le regardes, tu l'étudies.
Ouais.
C'est un peu comme si c'est moi je veux dire une matière qu'on t'a donnée, une compréhension du texte, on te demande d'étudier le texte. Tu dois étudier le texte, le comprendre pour mieux l'interpréter. Mm-hmm. Parce que si tu n'étudies pas, tu peux pas l'interpréter. Ouais. Ça c'est quasi impossible.
Alors moi j'ai une question un peu pratique. Mm-hmm. Quand on essaye de faire le fil de tous les grands rôles, enfin de tous les rôles même que tu as eu, Eusu, tu es Soye, Eyenga, ou même on te voit dans les drôles de dames avec Valérie, tu es même d'ailleurs en scène sur le dernier spectacle que je vois. Tu travailles avec une sincérité. On remarque ta présence, mais ce n'est pas la même. Puisque le message est différent, le personnage, il est différent, mais c'est toujours autant sincère. De manière pratique ou technique, est-ce que tu as des exercices qui te permettent donc d'entrer dans ces personnages et de travailler, de transmettre? Est-ce que tu as des techniques d'impro? Est-ce que tu as des trucs un peu pratiques dans ce sens-là?
Alors, moi, je n'ai aucune technique pratique. Mm-hmm. C'est bête, mais c'est ça, je n'ai aucune technique pratique. Pourquoi? Parce que... c'est l'âme qui parle, c'est le cœur qui parle. Même quand on interprète un fou, c'est l'âme qui parle, c'est le cœur qui parle. La sincérité ne peut que venir de ton cœur et de ton âme. Si tu n'es pas touché dans ton âme, si tu ne sens pas l'adrénaline là, monter dans ta tête, c'est que tu es à côté de la plaque.
Et justement, est-ce que ça t'a pas joué des tours souvent? Est-ce que ça t'est pas arrivé parfois d'avoir un rôle qui te fait découvrir une vérité sur toi-même ou qui te met soi-même face à certaines de tes vulnérabilités? Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé? Parce que quand on est autant sincère, il y a des rôles qui peuvent toucher des aspects propres de notre vie aussi.
Bien sûr. N'oublions pas que nous sommes d'abord des personnes avant d'être des comédiens, d'incarner des rôles. Tous les personnages que nous incarnons prennent des sources sur nos différentes émotions que nous avons vécues. Peu importe, tu ne vas pas inventer une émotion que tu n'as jamais vécue de ta vie, jamais. Ce que tu vas donner, ce que tu vas reproduire, c'est ce que ton conscient a toujours produit en toi. C'est un peu comme on dit, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un liquide là, bref. Donc, à un moment, il y a des personnages qui nous ressemblent. Qui nous absorbent. Qui laissent place à notre à la
vulnérabilité.
La vulnérabilité de notre âme. Il y a des personnages qui sont comme ça. C'est pour ça que parfois vous allez regarder un film, vous avez dit, vous allez dire waouh, ce personnage, c'est tellement magnifiquement joué. C'est parce que la comédienne, elle a vraiment mis son âme, c'est-à-dire elle a laissé que son cœur, que son âme, que son esprit, que tout habite dans ce personnage-là. Ouais. Elle ne s'est pas mise dans la tête que non. Parce qu'après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent des barrières. Ou bien que quand tu te mets une barrière, tu mets une barrière aussi pour ton personnage que tu vas incarner. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je joue, je me mets au maximum au service du personnage. Je mets au maximum mon âme. Je mets au maximum la sincérité. Bref.
Et justement, comment tu fais à chaque fois pour revenir? Parce que quand on se donne de cette façon, il y a des rôles qui peuvent être qualifiés de rôles maudits, qui te prennent la tête et qui t'emportent. Ça me fait toujours penser à l'expérience d'Heath Ledger avec le Joker. Il est même mort par après dans des conditions. Comment est-ce qu'on protège son âme, son cerveau, en se donnant, on peut avoir des rôles qui ouvrent des portes, qui nous font même entrer dans nos propres traumatismes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans
c'est
ce genre de cas?
C'est pour ça que la méthode Stanislas...
Stanislas. On va se blesser.
Ça me vient vite si c'est tic. Dans la méthode de temps, on dit il faut savoir que le comédien a une limite à ne pas franchir. Quand tu franchis cette limite-là, c'est comme si tu allais vers l'infini. Tu ne sais pas si tu en sortiras ou pas. Ce n'est pas parce qu'il faut être sincère, ce n'est pas parce qu'il faut être vrai qu'il faut, faut se laisser déborder.
Oui. Voilà. Et dévorer. Est-ce qu'il y a eu des rôles difficiles?
Ils ont fait atteindre la limite, justement.
Est-ce qu'il y a des rôles difficiles, plus difficiles que d'autres?
Si, tous les rôles sont difficiles. Hein. Quoique, même si c'est le rôle de vigile, là, c'est difficile. Les rôles sont difficiles.
Je dis par rapport justement à cette safe place que tu avais peur d'atteindre, cette limite-là.
Non, moi, je n'ai pas encore eu peur d'atteindre la limite-là. Les personnages qui sont souvent comme ça sont les rôles de composition.
Ouais.
Comme le acteur, c'est des rôles de composition où il faut aller au-delà. C'est-à-dire, il faut imaginer un personnage qui n'existe pas en fait. Il faut le créer, il faut lui donner une vie, il faut lui donner une folie. Et après, ça dépend de la direction qu'on va donner à ce type de personnage-là. C'est pour ça que c'est par exemple, un rôle de composition aussi, le fou.
Ouais.
Par exemple, il y a des jeux, des rôles où on te donne le personnage d'un psychopathe, d'un fou. C'est-à-dire, il faut savoir doser.
Oui.
Sinon, tu vas te laisser emporter par l'énergie du personnage parce que le personnage aussi peut tirer le comédien vers son délire.
Est-ce que dans ta vie personnelle, tu es quelqu'un de sincère?
Moi, je suis moins douce, sincère. Tout le monde est sincère, non?
Je pense que ça se voit un peu dans
cette
façon.
Moi, je suis moins douce, sincère. Ouais. Quand elle n'aime pas quelque chose, je ne m'approche même pas.
Alors, moi, j'ai envie qu'on aborde un peu la question de la sincérité, mais du point de vue du public camerounais. Parce qu'on sait que le public camerounais est différent des autres publics. Ça, plusieurs nous l'ont déjà dit. Quand on regarde un peu les productions qui sont servies, les projets, que ce soit dans le théâtre, parce que là-bas, c'est un peu sincère, dans le cinéma qui sont servis, qui ne reflètent pas toujours, ou beaucoup plus aujourd'hui, la réalité, la sincérité du Cameroun. Est-ce que le public camerounais est un public ouvert ou prêt à accueillir des projets véritablement sincères où ça écorche, ça déchire, ça nous met la réalité en face?
La chose la plus incroyable, c'est que le public camerounais est le public le plus fantastique en Afrique. C'est un public qui est très ouvert. C'est un public qui accueille tout. C'est un public qui accueille une proposition à partir du moment où toi-même tu es convaincu que ce que tu fais là,
oui, c'est bien.
C'est bien. Le public camerounais est un public très facile. Hein. Ce n'est pas un public compliqué du tout.
Justement, parce que quand on dit que le public camerounais est un public compliqué, c'est quelque chose que je dis, c'est parce qu'on ne leur donne pas encore des bonnes choses, c'est parce qu'on ne leur donne pas la qualité.
Non, ce n'est pas un public compliqué. Quand il y a la bonne qualité, quand il y a la bonne qualité, ils savent que ça là, ce n'est pas la blague. Et ce sont eux qui vous font les commentaires. Ils vont vous dire ça là, ce n'est pas la blague. Ouais. Ça là, pardon. Non, laissez. Ça là, c'est pas notre niveau. C'est voilà. Ça là, ça. Voilà.
Alors Jeanne, dis-moi un peu. Si quelqu'un devait jouer aujourd'hui ton rôle, à toi. Imagine que quelqu'un doit jouer un rôle dans ta vie aujourd'hui. Quelle est la vérité intime que tu aimerais qu'il transmette absolument? Imagine, toi, tu es derrière la caméra. Quelqu'un doit jouer ton rôle à toi.
quelle est la vérité intime qui devrait absolument...
Qu'ils soient authentiques. Qu'ils soient authentiques.
Authenticité.
Oui, authenticité.
La sincérité.
La sincérité, oui. Parce que déjà... En fait, dans le, je ne sais pas comment je peux exprimer le mot sincérité là. La vérité, c'est la vérité.
La vérité.
Voilà. La sincérité, là, c'est la vérité dans le jeu, c'est la vérité dans, dans ce qu'il fait.
Alors,
après, c'est donc, il doit être vrai quand il me joue.
Il doit être vrai.
Ça dit, il ne doit pas m'imaginer. Il, il doit venir habiter
voilà,
avec moi.
Voilà, c'est mieux.
Il doit venir marcher avec toi chaque matin.
Parce que c'est qui. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à la maison tous les jours, vous êtes avec vos compagnons, vos femmes, vos enfants à la maison. Tous les jours, vous les voyez. Mais s'il y a quelqu'un qui va mieux faire votre enfant, ce n'est pas le voisin.
Non, c'est clair.
C'est vous parce que vous êtes avec lui tous les jours à la maison. Donc, vous connaissez quels sont ses tics. Vous savez quels sont, sur quoi il peut se fâcher, sur quoi et comment quand il se fâche, comment. Vous connaissez tout.
Oui.
Vous maîtrisez votre enfant ou bien votre femme de A à Z. Quand vous voyez là, comment elle ferme un œil comme ça, vous savez que, ah, il est là. Donc, du coup, la jouer, ça ne sera pas difficile pour toi parce que tu la vois, tu la vis. À force, tout le temps de le faire, je ne sais pas, 10 ans, 3 ans, 15 ans, ça sera une évidence que tu vas faire. Tu vas jouer ta femme.
Vas-y. Alors, moi, la prochaine question que je veux poser, ça peut me mettre finalement un conseil qu'on donne à la nouvelle génération, puisque même si tu es jeune, tu es une vieille de la vieille. Et on sait que nous sommes dans une ère avec les réseaux sociaux où on joue des rôles qui ne sont pas forcément les nôtres pour le plaisir des vues, des likes, beaucoup plus quand on est acteur. Alors, comment est-ce qu'un acteur peut rester vrai ? Qu'on ne sente pas la différence entre le personnage, mais que cette vérité que tu transparais là, que tu manifestes, qu'il manifeste la même chose dans un contexte où les réseaux sociaux tendent un peu à déformer les gens et à les obliger de jouer des rôles constamment.
Alors, ça sera trop difficile, oh, parce que les réseaux sociaux ont une autre réalité aujourd'hui. On est dans l'ère de la digitalisation. Donc, du coup, ça ne sera pas évident de dire à quelqu'un de ne pas jouer ici, de ne pas jouer ça. Déjà, si tu dis à un jeune qui veut faire du cinéma ou bien qui veut même aller dans les réseaux sociaux, de faire une formation de théâtre, il va te regarder de haut, te dire comme, de quoi elle parle.
Elle parle de quoi là?
Et il y a même plein d'influenceurs, influenceuses. Si tu dis à quelqu'un, viens faire un truc, il va te dire non. Il va te dire non, mais moi je suis déjà machin à tout et tout et tout et tout. On est dans une époque où c'est, je ne sais pas si c'est perdu d'avance, mais le combat est très rude et très fort parce qu'on est dans une ère où tu vois des jeunes qui regardent dans les réseaux sociaux et te disent que c'est ça le cinéma. Donc, il y a d'abord toute une éducation de base qu'il faut refaire pour pouvoir donner des clés aux gens.
Et ça tombe bien, à partir de demain, à la Maison des Jeunes et de la Culture. Là, tout a commencé pour toi. C'est pas au même endroit.
Oui.
Mais c'est la Maison des Jeunes
et
de la Culture.
C'est la Maison des Jeunes et de la Culture qui m'a ouvert le port. Hein. Depuis 99, c'est
là où c'est tout a commencé pour toi. Bien des années plus tard, avec le thème « La sincérité dans le jeu », travailler la vérité du personnage et la véracité du comédien avec Jeanne Benti. Je rappelle, c'est les 25, 26 et 27 septembre à partir de 9h. Tous les jours, 3 jours. Je rappelle que c'est à côté, c'est pas le Sacré-Cœur de Neubel. Hein.
Sacré-Cœur de Neubel.
Voilà. Et quand tous ceux qui viennent, tous ceux qui viendront, avec quoi est-ce que tu veux qu'ils ressortent
de la leçon qu'ils doivent retenir.
Pour moi, je ne veux pas qu'ils ressortent en se disant qu'ils seront des grands comédiens. Je veux qu'ils ressortent en comprenant ce que c'est qu'être acteur. Je veux qu'ils ils sortent de là en comprenant ce que c'est que jouer. Parce qu'il y a jouer et jouer. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas jouer, il va te dire oui, je vais jouer, je vais jouer. Mais il ne peut pas comprendre qu'il y a jouer.
Il y a être juste et être
et
vrai.
Et jouer, et il y a jouer. Les gens regardent les films américains, oh les Américains, non, machin, non, mais attends, les mecs,
ils jouent.
Et encore qu'eux, ils ont un cinéma qui est tellement parlant que tout se joue au niveau des yeux. Dans les yeux, on sait si tu transmets l'émotion ou pas. On n'a pas encore atteint ce niveau qui est très fort. C'est le regard qui parle, c'est l'âme qui parle, c'est la vie qu'il faut donner à son personnage.
On espère qu'au sortir de ça, on aura enfin des personnages. plus de personnages que d'acteurs.
Oui.
Parce que malheureusement, aujourd'hui, la réalité est que...
Non, les pas plus de personnages, plus de bons acteurs. Parce que ce sont les acteurs qui vont jouer les personnages.
Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a des acteurs qui sont obligés de traîner un type de personnage qui fait que... Parce qu'on a déjà catalogué comme le gars qui sait bien jouer.
Oui, mais c'est la faute aux acteurs, je suis désolée.
C'est justement.
Enfin, c'est la faute aux acteurs.
Il sait jouer
parce que moi,
le
gars méchant. Parce que c'est pas parce que j'ai joué dans Le Blanc des Yenga où j'ai monté mes lolos où tu vas venir me proposer un film où je vais devoir me déshabiller parce que ah non non, si ça ne colle pas, si le personnage ne me pas, j'ai refusé. J'ai refusé tellement de tournages parce que le personnage ça ne me parlait pas. Je joue pas, on ne joue pas aussi seulement parce qu'il faut jouer.
Parce que
c'est vrai qu'on a besoin d'argent, oui. On a besoin de si on vit de ça, on vit de ce métier. Mais ce n'est pas parce que tu vas m'apporter un projet, même si le budget est à 1 milliard, et que moi, le personnage ne me parle pas. Ce n'est pas tous les rôles qui vont à tous les acteurs. Hein.
Ouais.
Tous les acteurs ne peuvent pas jouer le même rôle, non. Ouais. À un moment, il faut savoir se couper et faire la remise en question. C'est très important aussi pour les acteurs. Très, très important. Moi, quand on m'a proposé le rôle du docteur Soy, je me suis dit, waouh, ça c'est un challenge, j'ai jamais joué ce type de personnage. Donc voilà un personnage que je peux jouer et ça me sort carrément de tout ce que j'ai eu à faire. La comédie, on sait que je peux le faire.
Ouais.
Le truc, mais maintenant, le drame, quelque chose qui est un peu lourd, chargé. On ne m'avait pas encore vu sur cette facette-là. Donc moi, je dis, c'est de la faute des acteurs parce que. Si on t'appelle tous les jours pour jouer le rôle de braqueur, on dit que oh, j'ai un personnage qui va braquer.
Dès qu'on voit les braqueurs, on dit que bon,
viens, tu joues le rôle
de braqueur. Et ça devient un peu redondant.
Et après, ça devient redondant et tu te plains après. Okay. Non, c'est à toi. C'est ta carrière, ce n'est pas la carrière de quelqu'un d'autre.
Alors, est-ce que Afiri, justement, ton association, va te permettre de développer davantage cet aspect pédagogique que tu apportes aujourd'hui, enseigner, promouvoir, produire des projets, mais aussi éduquer un peu sur les bases dans un contexte où la digitalisation vient un peu tout bousculer là.
Afiri va faire avec ce que la digitalisation nous impose parce que c'est la mondialisation, qu'on le veuille ou pas. Tout est en... Chez les musiciens, on appelle ça streaming. C'est streaming. Voilà. Donc tout est en stream. Donc l'association Afiri se veut vraiment d'être dans la formation, donner les possibilités, les moyens aux gens, aux jeunes surtout, qui veulent faire dans ce métier, de pouvoir percer, de pouvoir émerger. Bon, moi, je n'ai pas encore percé. Donc, c'est un film, il n'y a que percer, percer d'abord.
D'abord. si, quand même un peu. Hein.
Mais beaucoup, est-ce que ça percé
si,
beaucoup.
Quand même un
hein.
peu, franchement. Ouais. Alors, Jeanne, franchement, c'était un vrai plaisir.
Ouais. Plaisir partagé.
Jeanne Benti, Eyenga pour certains, Norma aussi pour d'autres. Soyez pour beaucoup aussi.
Oui.
Et pour nous tous ce soir, simplement une artiste entière, une femme de scène et d'écran qui porte haut l'exigence du métier. La preuve, les ateliers qui commencent à partir de demain. Tu es de celles qui rappellent que la lumière ne tombe pas du ciel. Elle se construit, elle se gagne au prix de la passion, de la sueur, de la fidélité à son art. On a pu le voir aujourd'hui à travers tout ce que tu as traversé, à travers l'abnégation que tu gardes dans ce métier-là que tu as commencé depuis les années 2000. Merci d'avoir partagé, merci beaucoup. Tu es la preuve vivante que le talent, quand il est sincère et persévérant, finit toujours par trouver son heure. Ça se voit, je pense que tu y es déjà. Beaucoup plus mature, mais vraiment beaucoup plus exposé et mieux exposé aujourd'hui.
Oui.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ton authenticité, pour ta passion, pour ce sourire que tu offres, même quand les rôles sont lourds à porter. Ici, dans la vibe, nous croyons véritablement que certaines histoires ne sont pas seulement à raconter, mais à célébrer. La tienne en fait partie. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Nous voulons simplement te dire bravo et surtout, continue de briller parce que le Cameroun est bien au-delà. A encore besoin de ton talent. Merci beaucoup d'avoir été
là. Merci. C'est moi qui vous remercie, surtout cette chaleureuse équipe avec ce merveilleux studio, avec les caméras alors ici. Hein.
Mais tu es la star que tu penses être. On t'attendait.
Non, mais je suis émue. Vous savez, moi-même, je ne percute pas que je suis star. Non, mais vu que j'arrive, je dis personne lambda.
Je me fais beaucoup penser à Valérie. Donc c'est moi la star.
Franchement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.
Merci.
Les amis, merci à vous d'avoir écouté cette interview. Le programme continue sur Volume 3 tout de suite.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.